RFI.
Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Son prédécesseur, Jacob Zuma, lui a laissé en février un pays gangrené par la corruption où 24 ans après la fin de l'apartheid, la population noire des zones rurales et des townships regarde avec colère la minorité blanche et une élite noire devenir de plus en plus riche. Dans une Afrique du Sud où le taux de chômage frôle les 28%, où la xénophobie gagne du terrain, comment le nouveau président, Cyril Ramaphosa, compte-t-il reconquérir les électeurs perdus de l'ANC ici aux élections générales d'avril 2019. Quels sont ses chantiers prioritaires? Comment peut-il relancer l'économie? Que faut-il attendre de la réforme agraire annoncée quelques semaines après son arrivée au pouvoir? Quelle est la marge de manœuvre de celui qui fut le protégé de Nelson Mandela? On en débat avec, en ligne de Johannesburg, Nicolas Ponce-Vignon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur enseignant à l'université de Wits. Deux invités à mes côtés en studio. Victor Magnani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et Georges Laurie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, écrivain, ancien diplomate, traducteur de Nadine Gordimer, John Coetzee ou encore Breton Bach. Et vous connaissez très bien l'Afrique du Sud. Alors la semaine dernière, des dizaines de milliers de personnes ont rendu hommage à Winnie Mandela, Soweto. Comment vous expliquez cette ferveur autour de celle qui a été de tous les combats contre l'apartheid, mais dont l'image a été quelque peu écornée au fil des ans? Est-ce que c'est parce que Winnie Mandela, elle, n'a jamais trahi, aux yeux de la population noire, les idéaux de l'ANC? Victor Magnani.
Alors oui, les mobilisations et les personnes qui se sont réunies pour rendre hommage à Winnie Mandela démontrent un respect profond pour cette personne-là, qui est une figure de la lutte anti-apartheid. Néanmoins, elle a une figure un petit peu polémique parfois, notamment la presse a ravivé certains dossiers qui la concernaient durant la période d'apartheid. Elle a été associée à certaines, je dirais entre guillemets, milices qui auraient eu des activités violentes durant la période d'apartheid, au moment de la lutte. Donc c'est une personnalité qui est extrêmement respectée, qui fait partie des figures de la lutte anti-apartheid, mais en même temps, contrairement à son ex-mari Nelson Mandela, qui lui faisait l'unanimité au sein de toute la population sud-africaine, Winnie Mandela, elle, a une image un petit peu plus nuancée, et elle est critiquée pour la violence qu'elle a pu générer pendant la période d'apartheid, et pour des positions assez radicales qu'elle a défendues au lendemain de la période d'apartheid. Elle a notamment critiqué la période de négociations post-apartheid et les positions qu'avait pris Nelson Mandela notamment, qui aurait eu une position un petit peu trop tendre d'une certaine façon et qui aurait laissé un certain nombre d'avantages perdurer et donc laissé une forme de continuité entre la période d'apartheid et la période post-apartheid.
Rien n'a changé pour les Noirs, mis à part le fait que l'apartheid a officiellement disparu. C'est ce qu'avait déclaré Winnie Mandela quelques temps avant sa mort, en ajoutant « Économiquement, nous sommes toujours exclus. L'économie reste très blanche. » Nicolas Ponce-Vignon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat de Winnie Mandela ?
C'est difficile de ne pas être d'accord. Je pense que certaines personnes parlent un peu méchamment d'une société cappuccino au sujet de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire les noirs en dessous, les blancs au-dessus et un petit peu de grains de chocolat qu'on a saupoudré au-dessus de la mousse blanche. Et c'est un peu ça. L'économie sud-africaine reste très très dominée par ceux qui la possédaient avant, pour des raisons dont on va parler, je pense, mais qui ont beaucoup trait aux conditions de la transition qui a été négociée au début des années 90 et à certaines décisions qui ont été prises après. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu vraiment un tel engouement, non seulement de la part de l'ANC, ce qui est normal, mais aussi de la part des Economic Freedom Fighters de Julius Malema, pour rendre hommage à quelqu'un dont la personnalité est vue comme, en effet, plus radicale et s'opposant à certains des choix qui ont été faits par Mandela et d'autres au début des années 90.
Georges Laurie, vous êtes d'accord ?
Oui, sur le fond, Winnie Mandela, quand même, a eu deux vies. Celle de la militante intraitable qui a été torturée par la police, qui est passée par un moment très difficile de la vie, seule avec ses deux filles, exilée dans un petit village du Free State. Et puis après son retour à Soweto, où, comme l'a dit Victor, elle était entourée de petites frappes qui ont été des violeurs, qui ont mis en coupe réglée une partie de la zone de Soweto où elle habitait. Et ça, malgré tout, ça reste à son passif. Alors, l'image qu'on a voulu donner, parce que c'est l'unanimité actuelle, est positive. Mais je pense que en prenant un peu de recul, c'est pas si simple que ça. Elle représentait toujours la voix de ceux qui sont restés au bord du chemin, la classe moyenne noire qui émerge, que l'on chiffre entre 4 et 6 millions de personnes. Elle a pris le chemin de la réussite économique, donc ça marche bien pour eux. Ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore exclus. Et de ce point de vue-là, elle est restée leur icône.
Et elle est restée vivre jusqu'au bout à Soweto.
Oui, mais enfin, c'est une maison qui est pas mal, sa maison à Soweto.
C'est pas une masure.
Je peux le dire pour avoir rendu visite quelquefois. Ce n'est pas un palais comme on sait, comme les tenants de l'appartement ne sont plus à le décrire. Néanmoins, c'est une maison cossue et bien protégée.
Mais elle disait aussi, un quart de siècle après l'abolition de l'apartheid, il n'y a toujours pas un seul blanc à Soweto. Où est le changement ?
Oh, c'est vrai ? Non, il y a quelques blancs. La presse locale, de temps en temps, montre des petits blancs qui sont installés à Soweto. Mais c'est vrai que l'apartheid géographique est là pour durer.
Victor Magnani, pourquoi est-ce que l'ANC n'a pas réussi, après plus de 20 ans au pouvoir, à combler les inégalités ?
Déjà, je crois que le chantier était assez considérable. Ils ont hérité d'une situation à la fois économique et sociale très difficile. La ségrégation était une politique d'État, donc arrivée après des décennies de ségrégation, d'humiliation d'une certaine partie de la population, ce n'était certainement pas une chose aisée. Donc il faut, je crois, replacer une certaine forme de continuité entre la période pré-apartheid et post-apartheid. Et l'ANC n'est pas responsable de tout. Néanmoins, l'ANC est au pouvoir maintenant depuis près de 25 ans et bien sûr, les attentes étaient extrêmement importantes et un certain nombre de déceptions ont émergé et les critiques qui sont faites à l'ANC sont pour certaines tout à fait légitimes.
Par exemple,
sur la réforme agraire, on en parle, c'est une question importante. Georges Lory parlait de forme de ségrégation géographique qui existe encore à Johannesburg. Lorsqu'on dit qu'à Soweto, il n'y a pas de blancs, c'est aussi parce que Soweto était un quartier fait pour les Noirs pendant l'apartheid, et ce n'est pas parce que la période d'apartheid est terminée que tous les Blancs vont changer de quartier et aller vivre à Soweto. Donc c'est vraiment cette continuité géographique-là, elle est importante, cette ségrégation géographique. Et alors pourquoi ça n'a pas été fait, je pense que il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas cette période, je crois, de négociation à la fin de la période d'apartheid est extrêmement importante. Il y a eu des négociations et donc des compromis entre l'ANC et les autorités de l'apartheid.
Est-ce qu'il y a eu trop de compromis ?
Alors ça, ce n'est pas à moi de le dire. En tout cas, il est certain que le compromis a été d'ouvrir politiquement le jeu politique en Afrique du Sud. Donc l'ANC a pu candidater. On a en Afrique du Sud une démocratie multiraciale et fonctionnelle qui fonctionne très bien. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Néanmoins, les droits de propriété économique et foncier, eux, n'ont pas été remis en cause. Le droit de la propriété a été sacralisé d'une certaine façon. Et ça, c'est un compromis qui a été fait aux élites blanches de la période d'apartheid. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences.
Nicolas Ponce-Vignon, vous pensez aussi que les premiers dirigeants de l'ANC ont donné trop de gages à la minorité blanche et riche ? C'est là le péché originel ?
C'est une thèse qui est souvent mentionnée. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais enfin, je pense, comme le disait Victor, qu'il faut regarder. C'est très désagréable dans tous les cas de grands changements politiques. Hein. Pour la Révolution française, beaucoup de gens n'ont pas trouvé ça agréable de regarder les continuités avec l'ancien régime, et beaucoup de gens trouvent ça très désagréable de regarder les continuités entre le régime dirigé par l'ANC et le régime d'apartheid. Mais pour ce qui est du sujet de ma recherche sur les questions économiques, il est évident qu'il y a une continuité très forte dans les politiques d'austérité, notamment des politiques qui brident l'investissement, qui avait été bridé depuis les années 70 quasiment en Afrique du Sud. Et évidemment, sans investissement, d'un côté on fait le jeu des gens qui investissent dans la finance, d'un autre côté on ne peut pas évidemment accélérer la croissance et rattraper les énormes retards intérieurs au rythme que souhaiterait la population de manière assez légitime. Donc oui, je pense qu'il y a eu des compromis qui ont été faits, mais ce qui est plus important, c'est que ces compromis continuent. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, je pense que les politiques économiques de Ramaphosa représentent en quelque sorte, de ce qu'il a annoncé, un retour vers la période de Mbeki, c'est-à-dire un retour en arrière de quelques années vers une sorte de néolibéralisme tranquille qui a fondamentalement empêché l'accélération de la croissance et la réduction sensible des inégalités en Afrique du Sud.
Mais pour vous qui vivez en Afrique du Sud, est-ce que c'est exagéré de parler, comme le font certains Sud-Africains, d'apartheid sous un pouvoir noir ?
Disons que je reviens à ma métaphore qui est problématique à ce côté du cappuccino. Il y a évidemment, Georges en a parlé, il y a une classe moyenne noire qui a émergé principalement autour des, comme dans beaucoup de pays, du salariat public, des fonctionnaires, et un tout petit peu autour du secteur privé. Et il y a une classe noire extrêmement riche, mais très très limitée, qui a émergé à travers des contrats de Black Economic Empowerment, c'est-à-dire où on leur a permis de racheter des parts d'entreprises, de grosses entreprises blanches sud-africaines. Hormis ça, il reste une classe pauvre absolument immense, des inégalités qui sont donc plus entièrement raciales, mais qui restent très très fortes. Le principal mesure de l'inégalité, le coefficient de Gini, est plus important aujourd'hui qu'il était il y a 20 ans, ce qui est tout de même assez incroyable. La part des salaires dans le revenu total sud-africain a baissé depuis 1994, donc ça veut dire que le capital s'en approprie plus, donc cette inégalité-là aussi a augmenté. Donc, je ne sais pas si on peut dire apartheid, parce que l'apartheid c'est vraiment un système juridique.
Mais au niveau de l'encadrement, par exemple, est-ce qu'il reste majoritairement blanc ou pas ?
Alors ça dépend. Dans l'encadrement dans le public est principalement noir. Dans le secteur privé, ce qu'on voit souvent, c'est que les efforts pour recruter des noirs dans des postes de gestion se concentrent sur les postes visibles. Par exemple, directeur des ressources humaines, où on parle aux employés, ou directeur de la communication, qui est le visage de l'entreprise. Mais beaucoup d'études montrent que, par exemple, l'encadrement financier ou technique reste très souvent blanc, ou dans certaines entreprises indiennes aussi.
Victor Magnani, dans ce contexte, est-ce que le milliardaire Ramaphosa est l'homme qu'il fallait pour remettre l'Afrique du Sud sur les rails ?
Alors, je suis désolé de revenir sur le passé à chaque fois, mais il arrive après Jacob Zuma, et ça c'est quand même quelque chose à signaler. Jacob Zuma avait beaucoup terni l'image de l'ANC et les performances de l'ANC.
À cause de la corruption notamment.
À cause notamment de la corruption, principalement même d'ailleurs, et les performances de l'ANC en termes de fourniture de services publics et de performance économique de l'Afrique du Sud sous son règne était tout à fait discutable et assez négatif d'ailleurs. Donc il arrive après cette période-là, ce qui est pour lui déjà un élément qui peut le valoriser, puisqu'il n'a jamais été impliqué dans des affaires de corruption. Il arrive avec un discours extrêmement ouvert qui séduit notamment la communauté internationale. Ce qu'il fait, avant toute chose, pour l'instant, il est arrivé à la tête du pays depuis seulement quelques mois, il a restauré une certaine confiance, une confiance des investisseurs économiques, notamment la note de l'Afrique du Sud a été réévaluée, elle avait été dévaluée sous Jacob Zuma, et également une confiance auprès des électeurs sud-africains qui semblent penser que la période de la corruption généralisée, on peut parler de corruption généralisée à l'échelle de l'État, sud-africain, sous Jacob Zuma, il y a quand même un certain nombre de preuves très très inquiétantes de ce qui a pu être organisé durant la période de Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa a promis de tourner la page et de mettre fin à ces pratiques politiques corruptives. Donc il arrive avec l'image de celui qui va changer les choses et qui peut redonner l'espoir d'un parti, l'ANC, qui est un parti de libération, qui a été extrêmement populaire et qui a perdu beaucoup de soutien. Voilà, il est celui qui peut redorer l'image de l'ANC. Donc voilà, il a cette image-là et c'est ce sur quoi comptent beaucoup de cadres de l'ANC aujourd'hui.
Georges Leray, vous êtes d'accord ? Quelle est l'image de Ramaphosa en Afrique du Sud ? Est-ce que son parcours suscite de l'admiration ou de la réserve ?
Ce qui m'a frappé en Afrique du Sud au mois de mars, c'est l'immense soulagement de savoir aux affaires et que la période Zuma était passée. En revanche, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On attend maintenant de le voir à l'œuvre. Le fait est que son passé de syndicaliste peut séduire, même s'il a été écorné par la suite, et que sa réussite comme homme d'affaires est tout à fait intéressante pour créer un climat favorable aux investissements.
Il faut rappeler qu'il a été le fondateur du premier syndicat
des mines.
Mmh. Mais Nicolas Ponce-Vignon, est-ce que la tragédie de Marikana, quand la police, en août 2012, avait abattu 34 mineurs en grève, reste quand même une tache dans le parcours de Ramaphosa ?
Indubitablement, oui. D'ailleurs, je préfère parler du massacre de Marikana, puisque la plupart de ces mineurs ont été abattus dans le dos alors qu'ils s'enfuyaient. Certains abattus depuis des hélicoptères. Donc je pense que c'est plus qu'une tragédie, c'est vraiment un massacre. Et d'ailleurs, le processus judiciaire se traîne en longueur depuis l'époque. Oui, c'est une tâche pour Ramaphosa, puisque pendant les commissions d'enquête qui ont tenté de faire la lumière sur ce qui s'est passé, a été révélé un email plus que compromettant. Ramaphosa a été propriétaire, si je ne me trompe, autour de 15% de la mine Landmine où travaillaient les grévistes. Et il avait envoyé la veille du jour du massacre un email à la fois à la police de Rustenburg et aux compagnies de sécurité privées qui sont des espèces de milices principalement afrikaners, d'anciens militaires et d'anciens barbouzes sud-africains, en leur disant qu'ils sont surarmés, en leur disant cette grève n'est pas une action industrielle, c'est une action criminelle de voyous et il faut qu'on y réponde de manière proportionnée. Et le lendemain, il se passe ce qui se passe. Après, c'est toujours les paradoxes sud-africains. D'une part, évidemment, ça tache son image. D'autre part, c'est au moment où cet email a été révélé qu'il avait été nommé vice-président de l'ANC et donc mis sur les rails pour devenir président. Donc, ça révèle aussi, je pense, certaines des contradictions de l'ANC et de sa relation avec notamment les syndicats.
Georges Laurie, vous vouliez réagir?
Oui, le juge Farlam, qui a enquêté sur le massacre de Marikana, n'a jamais mis en cause Ramaphosa directement. Le groupe Chanduka que dirigeait Ramaphosa avait 9% dans l'ONMINE, la mine en question, et on a envoyé des mails à tous les actionnaires pour savoir comment réagir. Ramaphosa était très énervé par le fait qu'un syndicat qui n'était plus le NUM, celui qu'il avait créé, mais un autre, avait des positions beaucoup plus radicales que les siennes. Et du coup, il a fait savoir par ses fameux fax qu'il n'était pas hostile à une réaction vive. Donc c'est dans ce sens-là que Ramaphosa va traîner toujours cette affaire, mais à aucun moment il n'a été impliqué directement dans le massacre.
Victor Magnani.
Effectivement, il n'a pas été impliqué directement dans le massacre, ça je suis tout à fait d'accord, mais le mail existe et il prête à interrogation et en tout cas l'image de Ramaphosa a été ternie par cette histoire-là. Peut-être, je dirais qu'elle a été ternie, il est critiqué beaucoup plus par les gens qui sont à l'étranger ou les gens qui gravitent autour de certaines élites, notamment médiatiques en Afrique du Sud. Néanmoins, pour avoir passé beaucoup de temps en Afrique du Sud et avoir échangé avec des électeurs sud-africains notamment, lorsqu'on en parle de Cyril Ramaphosa, ce n'est pas certainement pas cela qui arrive en premier, il ne vous parle pas de Marikana en premier, et c'est peut-être ce que disait Nicolas Ponce-Vignon, ça fait partie des paradoxes sud-africains. La période la plus grave de la période post-apartheid, hein, quand même le massacre de 35 mineurs qui ont été abattus par la police, donc c'est quand même un événement extrêmement déplorable. Néanmoins, Cyril Ramaphosa aujourd'hui n'est pas associé à ce massacre-là très directement, on parle davantage de sa réussite dans les affaires économiques, de son passé de syndicaliste ou de militant anti-apartheid.
Nicolas Ponce-Vignon, est-ce qu'aujourd'hui la volonté de Cyril Ramaphosa, sa volonté affichée de lutter contre la corruption est réelle ou... Enfin, est-ce qu'il a vraiment les moyens de ses ambitions ?
Alors, je pense que quand on parle de corruption, c'est un peu un terme fourre-tout, surtout dans un pays comme l'Afrique du Sud. Il y a comme partout, comme en France, hein, il y a la corruption à très haut niveau, la corruption qui concerne les entreprises publiques, les grands contrats d'armement, etc. Ça, je pense qu'il est évident qu'il y aura beaucoup moins de corruption sous Ramaphosa que sous Zuma, puisque c'est à ce niveau-là, sur les grands contrats publics, que sous Zuma, les choses sont vraiment sorties des gonds d'une manière qui était parfois absurde, hein, c'est-à-dire que presque plus aucune entreprise publique en Afrique du Sud n'avait de gens compétents dans leur conseil d'administration. Zuma y mettait un peu tous ses amis et tous ses partenaires avec aucune attention payée à leurs compétences, que ce soit pour les entreprises de transport ou d'autres. Après, en Afrique du Sud, il y a un problème endémique qui est que, comme dans beaucoup de pays du Sud, le système politique fonctionne à travers le clientélisme et il y a un niveau de corruption au niveau local, notamment dans les municipalités, lié aux petits contrats que peuvent allouer les municipalités ou les provinces, qui est absolument gigantesque et qui fait l'objet d'ailleurs de conflits violents dans des provinces comme le KwaZulu-Natal, le Mpumalanga, l'Eastern Cape. Et il y a une étude qui a montré que dans l'Eastern Cape, qui est la province la plus pauvre de l'Afrique du Sud avec le Limpopo, il y a 29 000 procurement points, c'est-à-dire 29 000 entités qui peuvent donner des contrats publics. Et toutes ces entités représentent évidemment un moyen pour des gens d'accéder à des ressources économiques. Et cette corruption endémique, elle est liée au très haut niveau de chômage, au faible niveau d'activité, au faible niveau d'emploi, notamment dans les zones les plus pauvres. Les emplois sont quand même très concentrés sur les grands centres urbains. Et il est très peu probable que cette corruption-là soit touchée par ce que va faire Cyril Ramaphosa, parce qu'encore une fois, c'est la manière dont l'économie sud-africaine et les gens survivent. Donc voilà, je pense qu'il y aura sans doute une baisse de la corruption à très haut niveau, qui est celle qui est le plus visible, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un quelconque impact plus bas.
Nicolas Ponce-Vignon, Georges Laurie et Victor Magnani, on va faire une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI et on se retrouve dans 10 minutes pour continuer à discuter des chantiers du nouveau président sud-africain.
Géopolitique. Chantal Leroux.
Suite de géopolitique sur l'après-Zuma en Afrique du Sud avec cette question, quelle marge de manœuvre pour Cyril Ramaphosa? On en débat avec Nicolas Ponce-Vignon, enseignant-chercheur à l'université de Wits en Afrique du Sud, Victor Magnani, chercheur à l'IFRI, et Georges Lory, journaliste, écrivain et traducteur. Pour corriger les inégalités héritées de l'apartheid, le président Ramaphosa a ressorti un vieux serpent de mer, la réforme agraire. Il s'est engagé à redistribuer les terres aux Noirs spoliés, à exproprier sans compensation. Est-ce que l'Afrique du Sud risque de devenir un nouveau Zimbabwe, Victor Magnani?
Non, je dirais non déjà. Il faudrait peut-être revenir sur ce qui s'est passé au Zimbabwe. Je crois que le
Zimbabwe, ça a été une catastrophe.
Alors le discours international est celui d'une catastrophe. Depuis, des études ont montré que c'était un petit peu plus nuancé.
Vous mettez un bémol.
C'est un peu plus nuancé que cela. On ne va pas revenir en détail sur ce qui s'est passé au Zimbabwe. En tout cas, c'est un exemple qui existe et ce qui est certain au Zimbabwe et ce que veut éviter l'Afrique du Sud, c'est une chute assez drastique de la production agricole. Et je crois que Cyril Ramaphosa a été très clair sur ce sujet-là. Il a plusieurs fois maintenant, depuis son élection à la tête de l'ANC, déclaré que la réforme agraire aurait lieu, qu'il y aurait des redistributions sans compensation, sans équivoque a priori. Et ça vient notamment de la base de l'ANC qui a fait remonter cette revendication populaire qui est extrêmement importante en Afrique du Sud. La question de la terre est extrêmement importante dans le vocable politique sud-africain. L'ANC a dû faire remonter cette revendication-là, et Cyril Ramaphosa, élu à la tête de l'ANC de manière assez serrée, il a emporté face à l'ex-femme de Jacob Zuma. La faction de Jacob Zuma avec seulement quelques voix d'avance, donc il est obligé de composer avec cette faction-là qui avait une position un peu plus radicale, notamment sur la redistribution des terres. Donc Cyril Ramaphosa s'est emparé de ce sujet-là, il l'a mis en avant plusieurs fois. Néanmoins, il a toujours complété le fait de la redistribution des terres sans compensation en disant qu'il fallait pas que cela ait des conséquences sur les indicateurs économiques en matière agricole. Cela ne devait pas remettre en question fondamentalement les droits de propriété. Donc il a quand même une position nuancée, ambiguë, et surtout, je dirais qu'il ne s'est pas exprimé clairement sur ce qu'il comptait faire. Donc pour l'instant, on est dans la phase du discours qui est assez volontariste d'une certaine façon, mais il n'en dit pas beaucoup plus sur la façon dont il estime nécessaire de faire cette réforme-là, qui est un sujet extrêmement sensible, comme vous pouvez l'imaginer.
Georges Lory, c'est un effet d'annonce, à votre avis, cette volonté affichée d'enfin mettre en œuvre la réforme agraire ?
J'en suis convaincu, parce qu'il s'agit de gagner les élections d'avril 2019 et il est obligé de donner en effet des indications. Pour l'instant, comme l'a dit Victor, on reste dans le flou. Mais c'est vrai que le sujet est hyper émotif et qu'il va être obligé de sortir de son chapeau des mesures qu'on est tous impatients de connaître.
Nicolas Ponce-Vignon, qu'est-ce que vous en pensez? Elle va être mise en œuvre, cette réforme agraire? Elle va entraîner une vraie redistribution des terres ou pas?
La réforme agraire, elle existe comme politique depuis les années 90. Et donc ce qu'annonce Ramaphosa, c'est simplement un changement de méthode qui serait de mélanger à la méthode qui avait été adoptée sur le conseil de la Banque mondiale, qui était ce qu'on appelle acheteur volontaire, vendeur volontaire, de rajouter la possibilité de saisir des terres sans compensation. Après, ce genre de promesses, elles reviennent assez régulièrement. Zuma les a faites dans plusieurs de ses adresses à la nation. Il avait fait souvent des adresses, alors il avait proposé la limitation de la taille maximum des fermes, par exemple, des choses comme ça. Je pense, comme disait Victor, que ça parle très fort à beaucoup de Sud-Africains. Il y a une dimension très émotionnelle.
Il faut rappeler des chiffres peut-être. 72% des fermes appartiennent à la minorité blanche. Donc la minorité blanche, c'est 8% de la population. C'est bien ça?
L'inégalité, c'est ça. Et l'inégalité dans la distribution des terres est gigantesque. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment un potentiel pour que des millions de Sud-Africains se mettent à devenir des fermiers? C'est un peu ça qui fait partie du mythe de la réforme agraire. Or, les cas de fermes qui ont été redistribuées, moi j'ai un peu travaillé là-dessus, on voit systématiquement des échecs. D'une part parce que les politiques de soutien aux nouveaux fermiers sont quasiment inexistantes. On leur donne quelques centaines d'euros et après débrouillez-vous pour arriver à faire tourner des fermes qui doivent produire et vendre. Et d'autre part, parce qu'il y a une vraie attirance urbaine de la part de la population. La demande de réforme agraire est aussi une stratégie politique pour attirer des électeurs de l'IFF vers l'ANC.
L'IFF, dont Julius Malema.
de Julius Malema, les combattants pour la liberté économique. Et l'IFF représente principalement la classe moyenne noire, universitaire, professionnelle, etc., qui n'est absolument pas une classe qui a envie de revenir vers les terres pour y faire de l'agriculture. Donc il y a une vraie tension, et je pense que c'est beaucoup plus une dimension symbolique qui se joue, et électorale, qu'une dimension réelle. Après, le rythme de la réforme agraire a été extrêmement limité, mais je pense encore une fois qu'il a été limité et qu'il y a eu peu de succès, parce qu'une réforme agraire qui fonctionne, il faut énormément d'argent pour soutenir les producteurs, et c'est incompatible avec les politiques d'austérité qui ont été mises en place par l'ANC et qui continuent celles d'avant d'ailleurs.
Victor Magnani, est-ce qu'il est vrai que beaucoup de fermiers blancs songent à quitter le pays parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir ou qu'ils ont peur d'être tués tout simplement? Parce qu'il faut aussi rappeler 74 fermiers tués entre 2016 et 2017 en Afrique du Sud, dont une majorité de blancs.
Oui, quand on dit que c'est un sujet très émotionnel qui suscite des polémiques et des inquiétudes, des angoisses même de la population sud-africaine, c'est parce que une grande partie de la population noire sud-africaine est attachée à ce retour à la terre. Ça fait partie d'un vocabulaire extrêmement important. Mais du côté des populations blanches, effectivement, il y a une forme d'angoisse qui est relayée en Afrique du Sud, mais bien au-delà, et en Europe, on a beaucoup de relais de ces angoisses-là. On a entendu parler de génocide blanc, notamment dans certains contextes. Je crois que c'est fortement exagéré. On est quand même très très loin d'un génocide blanc en Afrique du Sud. Il y a eu des cas, effectivement, d'assassinats, de fermiers blancs de la part d'employés agricoles. Néanmoins, je crois qu'il faut relativiser cela, et il faut prendre un petit peu de hauteur pour regarder ce qui s'y passe. Je crois que ça s'inscrit dans un contexte d'exploitation agricole où les relations de travail sont extrêmement conflictuelles entre les fermiers et les exploitants agricoles. Les conditions de travail sont très difficiles et cela crée des grandes difficultés entre employeurs et employés.
Il n'y a pas d'émigration vers l'Afrique du Sud?
Alors, non, mais il y en a bien sûr depuis la fin de l'apartheid. Déjà, les gens, une bonne partie de la population blanche avait cette angoisse d'être complètement mise à l'écart de la société sud-africaine, d'être dépossédée des terres, mais également de ses intérêts économiques. Donc il y a eu des vagues de migration, mais elles n'ont pas été extrêmement importantes et bien en deçà de ce qui a été relayé.
Georges Laurie ?
Oui, on n'arrive pas à avoir de chiffres exacts sur l'immigration blanche, mais on pense...
On parle de 500 000...
500 à 800 000 personnes qui sont parties, mais ce n'est pas du tout la configuration, la valise ou le cercueil. Ça s'est passé de façon perlée. Et ensuite, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis faire des études à l'étranger en se disant un diplôme australien, américain, anglais peut être utile. Certains reviennent au pays. Donc c'est très difficile de mesurer exactement. Il y a en effet une crainte que ça pourrait mal tourner et plusieurs familles blanches essayent d'avoir un pied dehors si jamais ça tournait mal. Mais globalement, la majorité de la population blanche est toujours là.
Nicolas Poncevignon, autre mesure annoncée par Cyril Ramaphosa, l'entrée en vigueur en mai prochain d'un salaire minimum national. Est-ce que c'est une petite révolution ?
C'est indubitablement quelque chose qui va changer la vie de millions de Sud-Africains. L'Afrique du Sud dispose jusqu'à présent de ce qu'on appelle, en termes techniques, un système de salaires minima, c'est-à-dire des salaires minima sectoriaux. Il y en a plus de 70 en tout, de différents niveaux. Donc autant dire que la plupart des gens qui sont censés en bénéficier n'ont aucune idée de quel est le montant du salaire minimum, par exemple, je sais pas, pour un restaurant de moins de 10 salariés. Donc le fait d'introduire un salaire minimum va permettre qu'il soit bien mieux respecté d'une part. D'autre part, le montant qui a été annoncé et semble suffisamment élevé pour vraiment donner un boost aux revenus de beaucoup de salariés qui en Afrique du Sud, et c'est une des conséquences du système de ségrégation britannique puis d'apartheid africaneur, on pourrait dire, c'est qu'il y a un apartheid des salaires complètement incroyable dans les secteurs, on va dire, surtout qui emploient surtout des blancs. Les salaires sont à des niveaux pas très différents des salaires européens, et dans un certain nombre de secteurs, on a des niveaux de salaires qui sont parfois en dessous du niveau du seuil de pauvreté. Et donc ça va commencer à être un peu réduit par une intervention d'État. Et en effet, moi, je pense que ça va être très important. Après, il y a un débat en ce moment au Parlement qui fait rage sur les conditions de mise en œuvre et sur tout un tas de détails qui pourraient avoir beaucoup d'impact sur les conséquences de l'entrée en vigueur du salaire minimum.
Nicolas Poncevignon, il faut dire qu'en Afrique du Sud, des gens qui travaillent 40 heures par semaine n'arrivent même pas à joindre les deux bouts.
Absolument, oui. Il y a vraiment un phénomène de ce qu'on appelle en anglais « working poverty », c'est-à-dire de gens qui sont, dans beaucoup de secteurs, hein, qui sont payés à peine au niveau du seuil de pauvreté individuelle, voire en dessous. Et des recherches qu'on a faites avec mes collègues dans le cadre de la préparation d'une proposition de loi sur le salaire minimum ont montré que beaucoup de Sud-Africains qui sont dans des emplois de moyen ou bas niveau soutiennent entre 3 et 5 personnes. Donc, c'est-à-dire que quand on calcule le seuil de pauvreté, le niveau pour lequel ils doivent être au niveau de pauvreté, il faut aussi prendre en compte le fait qu'ils ont des gens qui dépendent d'eux, parce qu'il y a un immense niveau de chômage en Afrique du Sud, et que cette solidarité entre les personnes travaillant et d'autres membres de leur famille est essentielle. Et là, on trouvait que plus de 45% des Sud-Africains étaient dans une situation de working poverty, c'est-à-dire qu'ils étaient payés en dessous d'un niveau qui leur permettrait de maintenir eux-mêmes et leurs familles proches au-dessus du niveau de pauvreté. Ce qui, pour des gens employés à temps plein dans un pays comme l'Afrique du Sud, où la libération doit tant au mouvement syndical, fait partie des très nombreux paradoxes de ce pays.
Donc ça veut dire que 45% de Sud-Africains vont recevoir ce salaire minimum national ?
Alors, c'est que je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais on dit le diable est dans les détails. En ce moment, certaines des choses qui sont débattues au Parlement, c'est de savoir est-ce qu'il y a certains groupes de salariés, par exemple les travailleurs domestiques, dont il y en a beaucoup en Afrique du Sud, comme dans tous les pays où il y a beaucoup d'inégalités. Est-ce que les travailleurs agricoles, est-ce que les travailleurs des programmes d'emploi public, qu'on appelle Public Works Program, est-ce que ces travailleurs-là vont bénéficier du salaire minimum, ou est-ce qu'ils en bénéficieront dans 2 ans, dans 4 ans, etc. Donc il y a beaucoup de débats sur ce qu'on appelle les exclusions et les exemptions, qui pourraient avoir un impact immense sur le nombre de gens qui sont effectivement touchés par ce salaire minimum. Donc il va falloir attendre de voir comment se concluent les débats actuels au Parlement.
Et on connaît la fourchette de ce salaire minimum ?
On connaît le montant du salaire minimum mensuel, ce sera 3500 randes. Nous, on avait calculé avec mes collègues un seuil où le salaire permettrait aux gens de soutenir le nombre moyen de dépendants qu'ils ont à ce niveau de revenu, autour de 4300-4400 randes. Donc on est en dessous de ce qu'on aurait pu espérer.
Ce qui donne en euros, pour que nos auditeurs aient une petite idée ?
Alors, 3500 randes, ça fait en euros autour de 250 euros, à peu près. Mais bon, après, il faut le voir en termes de parité de pouvoir d'achat. Les conversions immédiates ne veulent rien dire. Donc, on est en dessous de ce qu'on aurait pu espérer, mais très au-delà de ce qu'avait proposé initialement le National Treasury, le ministère des Finances, ou les entreprises qui proposaient autour de 1800, 2000, 2200 randes. Donc, on est vraiment très, très au-delà. Et il faut dire que c'est vraiment à Cyril Ramaphosa qui a été le principal soutien politique de ce processus de salaire minimum qu'on doit cela. Et je pense honnêtement que dans les perspectives des élections de l'année prochaine, le salaire minimum est vraiment l'argument massue, la principale chose que Ramaphosa pourra montrer pour dire on a vraiment fait quelque chose qui a un impact sur la majorité des Sud-Africains et pas seulement sur une petite minorité, par exemple, de nouveaux capitalistes noirs.
Georges Leury, vous êtes d'accord, ça va bien au-delà d'une mesure symbolique.
Oui, ce sera parlant. Vous voyez les salaires payés, par exemple, autour de moi à Johannesburg, 3500, c'est bien au-delà de ce que gagnaient beaucoup de personnes.
Il y a un autre chantier qui attend le président sud-africain, c'est d'enrayer la désindustrialisation du pays. Comment compte-t-il s'y prendre ? Est-ce qu'il a donné quelques pistes déjà, Nicolas Ponsvignon ?
Je pense que la désindustrialisation est quelque chose qui préoccupe une partie de la classe politique sud-africaine depuis quelques années, et je pense qu'elle la préoccupe à juste titre, parce que c'est un phénomène qui date des années 80 et des fortes baisses des investissements, notamment dans les infrastructures. Elle a été très accélérée par la crise de 2009, c'est-à-dire l'impact de la crise de 2008 sur l'Afrique du Sud, où il y a eu presque 1 million d'emplois perdus dans le secteur manufacturier. Donc la base industrielle de l'Afrique du Sud s'effrite. Il y a un cadre de politique industrielle depuis le milieu des années 2000, mais très honnêtement, ces politiques industrielles ont très peu d'impact. Elles sont très mal mises en œuvre et moi, les recherches que j'ai faites là-dessus me suggèrent qu'une des raisons principales, c'est que la classe industrielle sud-africaine est constituée principalement de blancs et dans une moindre mesure d'indiens, et que pour beaucoup de gens dans le gouvernement sud-africain, l'idée de soutenir et de transférer des sommes importantes d'argent pour soutenir des capitalistes blancs est un anathème. C'est-à-dire que pour eux, l'idée, c'est que le gouvernement doit soutenir l'émergence de capitalistes noirs. Or, les capitalistes noirs qui ont émergé depuis une vingtaine d'années ont surtout émergé dans les secteurs forts de l'Afrique du Sud, donc la finance, les mines, et évidemment dans le secteur des contrats publics, mais souvent via, et ça c'est devenu un petit peu le problème numéro un pour la politique industrielle, via des contrats d'importation. Et c'est en train de devenir une des choses qui est en train de faire dérailler complètement la réindustrialisation proposée du pays.
Alors on va terminer l'émission par les élections, l'enjeu des élections prévues dans un an. Est-ce que 2019 peut voir une alternance se produire en Afrique du Sud, Georges Leury ?
À mon sens, non. L'ANC était en perte de vitesse aux dernières municipales, mais tombant de 62% à 57%, ce n'est pas une chute énorme. Et depuis que Ramaphosa est aux affaires et qu'on ressent un intérêt renouvelé pour le parti de Mandela, le parti qui a tiré le pays hors de l'apartheid, ça m'étonnerait vraiment que l'ANC perde sa majorité absolue.
Victor Magnani, vous êtes d'accord ?
Je suis tout à fait d'accord, oui. L'ANC reste un parti de masse extrêmement populaire, notamment dans les zones rurales, mais pas seulement. Depuis les premières élections libres et démocratiques de 1994, l'ANC a toujours tourné entre 60 et 70%. Pour vous donner un ordre de grandeur, et là effectivement en 2016, lors des élections municipales, ils sont tombés à environ 57%. Donc ça reste un parti extrêmement important. Il faut savoir que le premier parti d'opposition, qui est aujourd'hui l'Alliance démocratique, ne recueille seulement que 27% des suffrages. Donc on est encore loin d'une alternance envisageable, c'est sans doute encore un petit peu trop tôt. Lors des élections de 2016, l'ANC a vécu une forme de défaite symbolique. Des grandes villes sont tombées aux mains de l'Alliance démocratique.
Une ancienne formation blanche dirigée aujourd'hui par un noir.
Oui, alors c'est l'Alliance démocratique, c'est un parti qui a été créé au début des années 2000, mais qui est l'héritier de partis existants durant la période d'apartheid.
L'Alliance démocratique qui a le vent en poupe, puisque plusieurs grandes villes sont tombées dans son escarcelle.
Oui, lors des dernières élections de 2016, je disais, l'ANC a été confronté à une défaite symbolique, puisque certaines villes sont tombées. Il y a 8 municipalités métropolitaines en Afrique du Sud. Alors l'une était déjà dirigée par l'Alliance démocratique, la ville du Cap, et 3 d'entre elles sont désormais dirigées par l'Alliance démocratique. Il s'agit de Port-Elisabeth, Pretoria et Johannesburg. Pretoria et Johannesburg sont dans la province du Gauteng, la province qui est la plus importante d'un point de vue économique en Afrique du Sud, donc c'est symboliquement extrêmement fort et ça a aussi des conséquences directes pour l'exercice du pouvoir de l'ANC. Donc l'Alliance démocratique, oui,
Son score a été un avertissement pour l'ANC.
Tout à fait, et bien sûr l'Alliance démocratique se prévaut de sa croissance constante depuis sa création au début des années 2000. Néanmoins, il plafonne en dessous de 30% toujours. Le troisième parti principal en Afrique du Sud, c'est IFF, Economic Freedom Fighters,
de Julius Malema,
donc qui était autour de 8% lors des dernières élections. On disait que l'Alliance démocratique a remporté ces villes. En fait, ce n'est pas complètement vrai, puisqu'il y a eu des accords qui ont été passés pour déloger l'ANC de la tête des municipalités. Donc IFF a choisi de manière un petit peu curieuse, lorsqu'on regarde les programmes politiques des deux partis, de s'associer à l'Alliance démocratique pour permettre l'élection de maire de l'Alliance démocratique. Mais ce ne sont pas des accords durables. D'ailleurs, IFF n'a jamais exclu de discuter avec l'ANC. Ce qui était le sujet d'achoppement principal, c'était la présence de Jacob Zuma à la tête de l'ANC. IFF disait, on ne négociera pas avec l'ANC tant que Jacob Zuma sera là. Jacob Zuma a été remplacé, il y a maintenant une nouvelle direction et ce n'est pas impossible que des discussions aient lieu entre IFF et l'ANC, ce qui est une perspective délicate pour l'Alliance démocratique qui se retrouve un petit peu isolée.
Nicolas Ponce-Vignon, votre pronostic pour 2019 ?
Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'entre l'arrivée de Ramaphosa au pouvoir, d'une part, et le fait que l'Alliance démocratique représente avant tout une opposition libérale, ça peut fonctionner dans un pays comme la France, mais dans un pays comme l'Afrique du Sud, ça paraît peu probable. Il faudrait une alternative qui soit plus directement un parti qui prend par exemple la défense de la majorité noire pauvre pour espérer une alternance. Donc tant qu'il n'y aura pas un tel parti et tant qu'il y aura, je pense, Ramaphosa et encore cet effet qui va durer encore un an ou deux positif par rapport à Zuma, je pense qu'il n'y aura pas d'alternance. Après, se pose un peu la question du long terme et la question aussi de la direction de l'Afrique du Sud. Il y a une conception fausse sur l'Afrique du Sud qui est très répandue, c'est que l'Afrique du Sud est un pays émergent. En Afrique du Sud, je pense que le dynamisme économique appartient au passé pour l'instant. Le pays est assez, d'un point de vue économique, sclérosé, notamment par la puissance du monde financier. Et il est peu probable que l'ANC arrive à résoudre ses problèmes vu les opinions qui ont été exprimées et les directions de politique économique. Donc je pense qu'il y a vraiment une question sur quelle sera la durabilité du système politique démocratique sud-africain qui, comme le disait Victor, fonctionne apparemment très bien, en tout cas à l'échelle africaine, sans aucun doute, dans un contexte où les inégalités, notamment de classe, vont continuer à se creuser et où les murs dans les quartiers riches vont devenir de plus en plus hauts, le nombre de gens employés pour protéger les riches, pour les soigner et pour éduquer leurs enfants va continuer à augmenter, alors que les services auxquels ont accès les plus pauvres restent d'un niveau très 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 inférieure. Je pense que ça va poser une question sur le long terme, mais pas à l'échéance 2019.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Nicolas Ponce-Vignon, enseignant-chercheur à l'université de Vitz, Victor Magnani, chercheur à l'IFRI, et Georges Lory, journaliste écrivain, traducteur de Nadine Gordimer, John Coutsey ou encore Bretton Breitenbach. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Yann Leny qui m'a aidé à la préparer. Bonne semaine.